Tu veux bien ? Vayadaïm yadé Esav. Mais les mains sont les mains d'Esaü. Alors il a eu peur. Qui est là ? C'est mon père ? Et je vous rappelle, dans la pensée de Isaac, c'est un Esaü qui parle comme Jacob. Dans la réalité, c'est un Jacob qui avait les mains d'Esaü. C'est bien clair ? Alors regardez bien dans le texte. C'est ce que le Midrash a mis en évidence et que Gaon de Vilna a expliqué. Le premier mot de Hakol n'a pas de vav. Hakol, hein ? Il n'y a pas de vav. Il est écrit Haser, comme on vous en dit en bibliographie. Hakol, c'est comme s'il avait écrit Akal. Kal, ça veut dire léger. Si la voix est faible, alors les mains, c'est les mains d'Esaü. Mais si la voix est forte, les mains ne sont pas les mains d'Esaü. C'est clair ? Et ce que j'ai ajouté, moi, de la manière dont Rav Kook nous l'avait enseigné, c'est que dans la galoute, la voix de Jacob est très faible, parce qu'il ne peut pas parler, tout simplement. S'il parle en massacre, rappelez-vous les controverses du Moyen-Âge, quand les rabbins arrivaient dialectiquement et en latin à être plus forts que les curés devant les rois, et ça arrivait souvent, en particulier Nahmanide en Espagne, ils étaient attendus par les soldats qui les fusillaient fortement pour avoir gagné dans la controverse. C'est un peu ce à quoi faisait allusion Rousseau. Hein ? C'est bien clair ? Aujourd'hui seulement, la voix des Juifs se fait entendre dans le monde, commence, parce qu'Israël existe. Sinon, jamais, ça aurait commencé. Tous ces livres qui paraissent en France, par exemple, qui est une sorte de provocation, d'interpellation plus exactement, et presque à la limite de camoufler vis-à-vis de la pensée chrétienne en France, il y a des sociologues qui étudient le niveau des comportements des minorités religieuses en France, et la communauté juive arrive en tête dans les statistiques des sociologues, dans les indices de niveau intellectuel, spirituel, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut représenter pour les communautés chrétiennes comme camouflées. Est-ce que c'est clair ? Par exemple, que l'émission de José Eisenberg est celle qui est la plus suivie par les goïms. Indépendamment des qualités d'émission elle-même, c'est quelqu'un qui sait très bien faire ces émissions-là, tout simplement, dès qu'on commence à parler du judaïsme, ça éclipse le reste. Vous avez compris ce que je veux dire ? Je schématise un peu comme d'habitude, mais enfin, comprenez bien ce que je veux dire là. C'est-à-dire, cette espèce d'atmosphère, imaginez dans des foyers goy, le dimanche matin, la femme qui dit à son mari, « Allez, réveille-toi, c'est l'émission de Josie. » Vous voyez un peu de... On revient au sujet. Alors reprenez notre chapitre 32. Ça va ? Pas plus fort.
Vous avez dit que parce qu'il y avait combinaison des deux vocations chez Jacob,
il devient Israël.
Et lorsqu'il dit à son frère qu'il a acquis bétail et.
Oui.
Il a donc acquis la vocation matérielle et pourtant il n'est pas encore Israël.
Il est sur le chemin, c'est sur le retour de l'exil qu'il va recevoir le nom d'Israël, juste après. Hein? Ça va lui être confirmé. Mais pour cela, d'abord, il faut qu'il arrive à être plus fort que le génie d'être. Alors là, je vous ai ouvert une parenthèse que je vous rappelle très rapidement. Je vous ai analysé le profil de la civilisation occidentale qui est devenue. Complètement engagé en tant que tel, en tant qu'occidental, dans la vocation matérielle, les sciences et les techniques, vous suivez ? Okay. Le profil de la civilisation orientale qui est uniquement la performance spirituelle, vous rappelez de cela ? Et qu'Israël est un cas particulier qui se dévoile subitement au bout de 2000 ans d'exil, il se dévoile que les Juifs ont un état en tant que tel. C'est bien clair ? Je pourrais vous citer énormément d'événements qui se sont passés pendant les 36-37 ans de l'État d'Israël. Chacun d'entre eux est inouï à l'indice juif. Comment des juifs ont fait ça ? Après, j'en dirai plus là-dessus. Mais celui qui me reste surtout en mémoire, c'est Entebbe. Si on avait dit aux juifs des camps de concentration, à l'époque, que leurs enfants feraient quelque chose comme Entebbe, qu'entre-temps, il y a un État qui puisse les envoyer en avion juif et avec des armes juives, on a dit tu rêves. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'une capacité qui a été refoulée, comprimée pendant 2000 ans, subitement éclatée. C'est que Jacob est capable d'être aussi l'homme de la vocation de ce monde-ci. Alors il s'appelle Israël. Vous avez compris le c'est bien fait ? Je pense que j'ai un peu raccordé tout ces... Alors, le problème pour la société d'Israël, c'est de faire la preuve qu'elle peut être dans les deux vocations cachère. Parce qu'il peut y avoir échec et dans l'une et dans l'autre. Jacob, devenant Israël, peut échouer en tant qu'homme de l'esprit ou peut échouer en tant qu'homme de la matière. C'est clair ? Donc, c'est le problème de la mise à l'épreuve de la société d'Israël. Mais comme disait le Rabbi Ephraim, c'est. J'ai oublié la phrase en français, je voulais dire les deux. Ah, Utrila Essek, l'affaire a commencé. On veut dire ça en français. Et comme disent les serveurs de restaurant, c'est parti. Vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est irréversible. Alors, quelles que soient les difficultés des douleurs de l'enfantement, c'est l'expression employée par la tradition pour le temps que nous vivons, c'est et l'enfant est né, et c'est irréversible. Vous voyez, c'est clair? Voilà donc pour ce thème, je crois que c'est bien compris, c'est-à-dire que Jacob doit prendre sur lui les deux vocations. Et en fait, il préfère la sienne, Jacob, et l'autre vocation, elle lui est très très désagréable. Il la prend quand même. En fin de compte, quand il les intègre, il s'appelle Israël. Les deux cachés. Alors, je vous ajoute une analyse qu'on reprendra à la rentrée, lorsqu'on commencera à étudier les textes concernant les enfants de Jacob, les tribus d'Israël. C'est que la vocation proprement spirituelle est transmise à Judas, Yehuda, et la vocation proprement matérielle est transmise à Joseph. C'est clair ? Retenez bien ces deux polarités. La vocation spirituelle, comme telle, est transmise à Judas. La vocation matérielle est transmise à Joseph. Alors, deux indications. Ça veut dire que cette capacité d'être l'homme de l'engagement spirituel, Jacob l'a transmise à Judas. Et il y a un verset qui parle de la voix de Judas, c'est-à-dire la capacité de la voix est transmise à Judas. « Shema Hashem kol Yehuda » dit le verset. C'est pas la peine de le citer. Et cette capacité, en tant qu'Israël, d'être le tzaddik, l'homme de la vocation matérielle et tzaddik quand même, c'est Joseph. C'est bien clair ? Ça, nous étudierons beaucoup plus en détail dans le troisième trimestre, puisque c'est là qu'on commencera à apprendre les catégories de la messianité, et ça nous amènera au temps contemporain. Et alors, Yosef a fait la preuve qu'on peut être l'homme de la vocation matérielle et rester tzaddik. C'est pourquoi l'antagoniste de Ésaü, c'est Joseph. La continuation de Jacob, c'est Yehuda. C'est clair. Lorsque Yehuda et Joseph sont séparés, Israël est entre parenthèses. Il faut que Yosef et Yehuda soient unis pour qu'Israël apparaisse. Et l'état actuel, je l'ai dit très, très rapidement, de la société juive, c'est que ces deux forces, être juif par la nation, par l'engagement terrestre, et Joseph, et être juif par la Torah, par l'engagement spirituel, sont séparés et se combattent. Vous avez compris le problème ? Nous sommes encore au stade, semble-t-il, quoi qu'il y a déjà des samémanimes, des signes qui montrent que, à l'échelle individuelle, déjà ça se rencontre. Mais nous sommes au stade où ces deux forces sont coupées en deux, si j'ose dire. Et parce que coupées en deux, se combattent. C'est clair ? Vous avez bien compris de quoi je parle ? Vous pouvez le diagnostiquer dans la communauté de l'exil et en Israël. Et alors, il arrive à un certain moment, selon le récit de la Bible, où Joseph et ses frères, à leur tête Judas, se réconcilient. Okay. Bon, je pense que vous verrez ça encore de votre vie. Peut-être moi aussi avec une canne. Et ça commence déjà dans certains points de la société juive où se réalise déjà cette unification. Pas l'un ou l'autre, les deux à la fois. Ça, c'est Israël. Capable d'être Judas et capable d'être Joseph. C'est bien clair ce que je dis là ? Je crois que ça devient un peu plus clair. Cette notion, c'est très important. Et vous comprenez pourquoi l'identité Israël à l'indice israélien et l'identité Israël à l'indice de la diaspora ne sera jamais plus la même. Parce que l'indice d'identité Israël-diaspora, c'est Jacob. C'est Judas seul. Alors que l'indice à l'échelle d'Israël, c'est les deux à la fois, c'est un niveau supérieur. C'est pourquoi on parle de Aliyah. Bon, vous avez bien compris cela ? Et alors, vous verrez dans la scène de la reconnaissance entre Joseph et ses frères dans le récit, c'est Joseph qui commence à reconnaître ses frères. Et eux, dit le verset, ne l'ont pas reconnu. C'est exactement l'état du problème. Je vais vous le dire par une des illustrations. Le juif national, qui n'est pas relié à la Torah, admet quand même que le juif de la Torah fait partie de son peuple. Okay ? Ça a l'air énorme ce que je vous dis là, mais vous comprenez bien les problèmes. Bon, il est juif bien que pieux. Donc, vous comprenez cette espèce de... alors que le juif de la Torah, qui est exclusif, a d'énormes difficultés pour admettre le juif national comme faisant partie de son peuple. C'est bien clair ce que je dis là ? Vous diagnostiquez cela. Okay ? Quand un juif uniquement de la vocation de la Torah, rejetant a priori comme blasphématoire l'idée que Jacob va prendre les mains d'Ésaü, l'État d'Israël, parle de ces juifs qui sont comme ça, les juifs de la nation d'Israël et pas reliés à la Torah, eh bien, il est obligé de dire, parce que c'est écrit dans Shulchan Aruch, que tous les juifs sont des juifs, okay, mais si j'ose dire, ça ne lui sort pas, ça ne lui passe pas. Okay. Il vous ajoutera toujours un mais, là tu es juif, mais. Okay. Vous avez compris le problème ? Tandis que dans l'inverse, non. Il les supporte parce qu'il faut les supporter, parce qu'ils sont insupportables, alors on les supporte. Mais il n'y a pas de doute qu'un juif est un juif pour les autres. Vous avez compris le problème ? C'est exactement ce verset-là. Joseph a reconnu ses frères avant que ses frères ne le reconnaissent. Ça va ? L'analyse est suffisamment clarifiée. Bon, alors j'aborde maintenant le deuxième point de l'étude, ce que je vous ai appelé le demi-repentir d'Ésaü. Alors là, accrochez-vous un peu, parce que c'est un thème un peu plus difficile, tout simplement parce qu'il n'est évident qu'en hébreu, mais je vais essayer de vous montrer. Alors vous prenez le dernier passage de la paracha de Toldot, et le chapitre 20. Alors nous allons lire les 8 ou 9 versets du chapitre 20. Ah ben il est déjà une heure. Ah oui, on va travailler jusqu'à 1h30, puis vous avez commencé à midi. Et je rappelle pour les autres qui n'étaient pas là que la réunion sera avancée à 2h pour que vous ayez votre preuve d'oubli puisque vous n'avez pas cours de géographie. Bon, ou peut-être je vais finir en un quart d'heure si ça va vite. Vous avez vraiment faim ?
Oui, on a.
Hein ? Pourquoi ? Vous ne venez pas assez tôt pour prendre le petit déjeuner, si vous Comment ? Et, alors, vous voulez qu'on arrête là ou que je termine ça ?
Non, non.
Bon. Alors, je vais dire très rapidement. Suivez avec moi. Vaikra Yitzhak et Yaakov et Barichoto. Et Isaac appela Jacob et le bénit.
Je m'excuse.
Chapitre 28.
Oui, quel
verset ? Du verset 1.
Ouais.
Vaikra Yitzhak et Yaakov et Barichoto. Et Jacob appela et Israël appela Jacob et le bénit. Vaitzaveu, il le recommanda. Vaïomerlo, il lui dit, Lotika Risham et Benot Knaam. Tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Knaam. Clair ? Et vous rappelez que c'était la raison de la disqualification des Aïus. C'est clair ? Kum l'er Paden Aram, va à Paden Aram, qui est le nom de la région de la ville de Haran. Beta Betuel Abi Mecha, à la maison de Betuel, père de ta mère. Et prends pour toi de là-bas une femme, Mibbenot Laban, des filles de Laban, Achimecha, frère de ta mère. Ve'eshadai Barech Otra, et le Tout-Puissant te bénira, Ve'yafrecha Ve'yarbecha, te fructifiera et te multipliera. Vous vous rappelez, Péri, Pérou, Urbu, vous avez là les verbes, ok? Ve'aitalikalamim, et tu deviendras une assemblée de peuple. L'assemblée de peuple, c'est l'assemblée des tribus, qui chacune d'entre elles est appelée un peuple. Et voilà le verset, « Ve'iten lecha et birkat Abraham, et il te donnera la bénédiction d'Abraham, lecha uzaracha itach, à toi et à ta postérité avec toi. » Et vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec la bénédiction des choses matérielles. C'est clair ? « Lerishtecha et eretz negulecha, afin que tu hérites du pays de tes pérégrinations, de tes voyages, eretz Israël, asher natan elokim le Abraham, que Dieu a donné à Abraham. » Alors suivez bien maintenant l'ordonnance du récit sur le texte hébreu, et moi je le dis en français en même temps. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, et Isaac envoya Jacob. Vayeler Padena Aram, et il alla à Padena Aram. El Laban ben Betuel Arami, chez Laban, fille de Betuel l'araméen. Achi Rivka, frère de Rivka, et Yaakov, mère de Jacob, et Esav et d'Ésaü. Vous vous rappelez de cela? Bon. Voilà, accrochez-vous bien ici. Vaya Esav qui berach Yitzhak et Yaakov. Et Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob. De quelle bénédiction? De la bénédiction d'Abraham. L'autre problème est réglé déjà. C'est clair? Veshilachoto Padenaram, et qu'il l'avait envoyé à Padanaram, la kahatlo misha misha, pour prendre pour lui de là-bas une femme, de Barechoto en le bénissant, Vaitzav alav le mot, et en lui recommandant en disant, Lotikarisha ni benot kenaram, et tu ne prendras pas de femme dans le pays de, parmi les filles de Kenaram, et que Vaishma Yaakov et la ville, voilà ce qu'Isaac voit, et Isaac a vu que Jacob a entendu la voix de son père, et Imo et de sa mère, Vayelir Padena Aram, et qu'il est allé à Padena Aram, alors Vayar Esav, Esaü vit, s'est rendu compte, si vous voulez, Kiraot Benot Knaran Beine Yitzhak Aviv, que les filles de Knaran étaient mauvaises aux yeux de Isaac, son père, suivez bien, Vayikar, et Vayelir Esav, alors Esav est allé, El Ishmael, chez Ishmael, Vayikar et Mahalat Bat Ishmael, et il prit Mahalat, fille d'Ishmael, Ben Abraham, fils d'Abraham, Ahod Nevayot, la sœur de Nevayot, qui est le fils aîné d'Ishmaël, Al-Nashav, en plus que ses femmes, Cananéenne, Lorish. Vous voyez, le demi-repentir de Esaü. C'est clair? Alors je vous reprends le récit. Lorsqu'en fin de compte, Esaü s'est rendu compte de la raison pour laquelle c'est Jacob qui a été béni, de la bénédiction d'Abraham, okay, parce qu'il s'est rendu compte que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il s'est rendu compte que les femmes de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père, retenez bien la différence, le père et la mère pour Jacob, le père que pour Isaac, okay, alors il y a un demi-repentir, il prend une fille d'Ishmaël, il va se ressourcer dans le sémitisme de l'islam, okay, vous savez comment ça se passe entre les chrétiens et les arabes, okay, et puis vous pourrez vous citer dans le monde colloque qui se tient dans le monde musulman, en particulier au Maroc, il y a un colloque qui s'appelle le colloque de Tumlilin, où les jésuites et les soufis se rencontrent pour se ressourcer mutuellement avec drapeau palestinien, c'est-à-dire anti-juif. Et puis il y en a d'autres en Arabie Saoudite, à Riyad, etc. C'est un peu de cela dont nous parle le verset, une espèce d'alliance entre Esaü et Ishmaël. Mais pourquoi demi-repentir? Parce que le texte dit « Al-Nashab », en plus que ces femmes païennes. Et vous avez là un profil très simple de la théologie chrétienne. C'est un sémitisme, un monothéisme sémite plaqué sur une idolâtrie païenne. Vous l'avez, une idolâtrie païenne, c'est clair? Bon, voilà la première lecture très simple. Ça va? Donc, c'est pourquoi les kabbalistes ont toujours dit, lorsqu'il y a alliance entre Esaü et Ishmaël, c'est mauvais pour Israël. Et nous sommes en plein dans un temps où il y a une alliance entre Esaü et Ishmaël contre Israël. C'est clair? Vous comprenez comment? Bien. Bien. Et alors je vais vous donner une deuxième lecture très rapide. On vous demande de revenir un peu en arrière. Ne perdez pas votre texte ici. Et prenez le verset 35 du chapitre 26. Prenez le verset 34 déjà, du chapitre 26. Chapitre 26, verset 34. Alors je vous traduis. C'est là où on nous raconte que Esaü a pris des femmes du pays de Canaan. Vaï Esav ben Alvaim Shana, Esaü était âgé de 40 ans, Vaï Karisha, et il prit comme femme, et Yehudit, Bat Be'eri, Yehudit, fille de Be'eri, Achiti le Chitéen, Ved Bosmat Batelon, Achiti le Chitéen. Verset 35, Bati Yena Mouratouar, et elles étaient, ces filles, un sujet d'amertume. Les Yitzhak ou le Rivka, pour Isaac et pour Rivka. Pourquoi? Pour les raisons que nous avons étudiées précédemment, les Toladot ne peuvent pas passer par une femme étrangère. Elles ne peuvent passer que par une femme de la famille d'Abraham. Pour toutes les raisons qu'on a apprises. Si ce n'est pas encore clair, j'aurai l'occasion de le dire. Tant que l'identité Israël n'est pas engendrée, on ne peut pas y faire pénétrer une matrice étrangère. Dès que l'identité Israël est engendrée, déjà au niveau des enfants de Jacob, on peut épouser des femmes étrangères qui deviennent Israël. C'est clair jusque-là. Mais au temps des patriarches, interdiction absolue. D'où la difficulté de trouver une femme au temps des patriarches. Tant pour Isaac, fils d'Abraham, que pour Jacob, fils d'Isaac. Et il sait, Ésaü s'assimile au Cananéen. Ça passe plus par lui. C'est clair ? Alors, retenez bien ce fait, que le verset dit, elle était moratoire, sujet d'amertume, pour Isaac et pour Rivka. C'est clair ? Revenez à notre verset ici, le verset 5 du chapitre 28. Et Ésaü vit que Raot benot Knaan beene Yitzhak avi, que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux d'Isaac son père. Il oublie sa mère. Vous avez compris ? Et alors que le verset, lui, dans son récit, dit, dans le verset précédent, Vaishma Yaakov et la vie Venimo, alors que Jacob a écouté son père et sa mère. Et Isaac ne se repent que vis-à-vis de son père. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir. Mais vous avez une deuxième lecture de ce que je vous ai appelé le demi-repentir. Ça va jusque-là ? C'est clair pour tout le monde ? Bon. Alors, je vais vous citer. Hein ? J'ai dit Israq ? Oui. Alors, et ça ? Ça m'arrive souvent de faire ce lapsus, et je sais pourquoi d'ailleurs, mais enfin, on ne va pas faire de psychologie appliquée. Enfin, très très simplement, c'est que la complaisance d'Isaac pour Ésaü nous a coûté encore plus cher que la complaisance d'Abraham pour Ishmaël. Alors, des fois, ça se mélange. Je vous ai parlé de Jules Isaac l'autre fois. Alors, je vais vous citer l'explication du Zohar à ce sujet. Il y a un verset des Proverbes qui dit ceci. Vous aurez l'occasion de l'apprendre si vous lisez la Bible. Shema Beni, Moussa Abicha, écoute mon fils la morale de ton père, Ve'al Titosh et n'abandonne pas Torah Timecha, la Torah de ta mère. C'est un verset très connu au Talmud Torah. Shema Beni, Moussa Abicha, Ve'al Titosh, Torah Timecha. Et le Zohar dit En Abicha, et la Abicha Shel Hashamayim, ton père. C'est ton père qui est aux cieux, ça veut dire Dieu lui-même. C'est clair. Imecha Knesset Israël. Ta mère, c'est l'assemblée d'Israël, la communauté d'Israël. C'est clair ? Bon. À partir des données de ce Midrash, si vous reportez l'analyse du Midrash à notre problème, alors tout c'est clair. Qu'est-ce que c'est que le demi-repentir d'Ésaü ? Il va en fin de compte accepter le Dieu d'Abraham, mais pas l'assemblée d'Israël. C'est bien clair ? C'est exactement ce qui s'est passé au niveau de l'histoire de Rome. La Rome païenne a adopté le Dieu le Père, vous comprenez pourquoi j'exprime ça comme ça, mais n'a pas adopté la mère. Ce qui se traduit par l'antisémitisme d'Ésaü. Il accepte le Dieu d'Israël, mais pas Israël. Vous avez compris cela ? Je pense que vous avez compris. Ça veut dire que, c'est pourquoi je vous ai parlé d'un demi-repentir, la Rome païenne est devenue la Rome chrétienne, s'érigeant en un Israël rival de l'Israël réel. Ça va jusque-là ? Ça veut dire que, et quand vous lisez les textes des chrétiens, eh bien, c'est très frappant. Ils acceptent Dieu le Père, c'est-à-dire le Dieu d'Isaac, okay, mais ils n'acceptent pas du tout la vraie mère, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël. Ils lui substituent une figure mythique, à qui ils donnent le nom de la sœur de Moïse pour faire bien dans le tableau, okay, en plus. Oui, de qui je ne veux pas parler. Okay. Et alors, là, c'est clair ? Vers la fin de l'année, on lira le mythe chrétien dans leur propre livre, et vous verrez, comme je vous ai dit souvent, à quel point non seulement c'est un mythe, mais qu'il faut être anti-semite. Enfin, ce mythe-là. Et ça, parce que ça a été un mythe dévastateur. En tout cas, pour les juifs, évidemment, mais pour l'humanité entière. Et voilà donc le problème. Il suffirait que ce repentir s'achève, c'est-à-dire qu'Ésaü fasse repentir aussi vis-à-vis de sa mère, l'assemblée d'Israël, pour que les prophéties s'accomplissent, et c'est à ce moment-là qu'elles s'accomplissent, Ésaü renonce à sa réclamation et disparaît comme tel. Vous avez compris ? C'est très simple à comprendre. Okay ? Top. Vous avez des questions encore là-dessus ? Oui, vous voyez pourquoi il y a une telle réticence de la part des chrétiens de reconnaître l'État d'Israël. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils reconnaissent l'État d'Israël, c'est fini. C'est l'achèvement du repentir de Rome et c'est fini. Alors, ils ne peuvent pas. Les fondements du mythe chrétien s'effondreraient si, en plus que du Dieu d'Israël, ils reconnaissent la prérogative d'Israël. Vous avez bien compris ça ? Hein ? Oui, on ne sait pas comment, bien sûr. Mais je veux dire que j'ai souvent demandé à des prêtres de m'expliquer pourquoi le Vatican ne reconnaît pas l'État d'Israël. Ils sont très gênés, parce qu'ils ne peuvent pas nous dire la vérité. Si on vous reconnaît, la théologie chrétienne s'effondre. Vous comprenez le problème ? Et parce que ça consiste pour eux à reconnaître que c'est bien le peuple juif qui est le peuple d'Israël. Et ils sont vraiment très embêtés. Il y a quelques livres qui commencent à parler, j'en ai lu déjà 4 ou 5, qui commencent à paraître sur ce problème de la part des chrétiens, et qui essayent, 2000 ans après, d'essayer de trouver une place positive au peuple juif dans leur théologie, alors que jusqu'à présent, ils n'avaient qu'une théologie négative du judaïsme, que les juifs étaient les suppôts de Satan, témoins de ce qui arrive à ceux qui ne reconnaissent pas le Messie de Marie. Vous avez compris,
c'est forcé un peu.
Quoi donc ?
Cette histoire, vous avez dû c'était un plan, c'est pas lui qui a fauté finalement, au départ.
Alors, tu n'as pas suivi tout ce qui s'est passé depuis le début. En tout cas, pour le moment, je suis au niveau du diagnostic dans l'histoire. Okay. C'est que, actuellement, le monde issu de Rome, et rappelez-vous ces deux étapes, la Rome païenne, avant le demi-repentir, la Rome chrétienne, après le demi-repentir, se trouve en face d'un problème pour lequel il n'a pas de solution. Il est en train de découvrir qu'il faut reconnaître Israël comme Israël. Or, on ne peut pas. Donc, il y a blocage. C'est clair ? Bon. Et vous n'avez pas fréquenté les chrétiens et leur liturgie, mais vous seriez estomaqué, je ne sais pas comment on dit ça en bon français, de voir comment dans leur livre de prière, dans leur missel, dans leur oraison, etc., ils parlent d'eux comme s'ils étaient Israël, tout simplement. Et ils sont en train de découvrir, non, que Israël, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être les Juifs. Abomination de la désolation. Imaginez le drame de conscience. C'est clair ? Alors, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que lorsque je pose cette question à des chrétiens, pourquoi le Vatican ne reconnaît pas l'État d'Israël ? Ils n'arrivent pas à répondre. La vraie raison. Et alors, on voudrait bien l'entendre, qu'on s'explique. On pourrait leur expliquer comment on peut s'arranger. Hein ? Et alors. Ils nous disent, par exemple, « Ah, mais le Vatican a l'habitude de reconnaître comme État qu'un État qui est reconnu par tous les États. Et comme vous n'êtes pas reconnu par les États arabes, on ne peut pas vous reconnaître. » Raison apparemment politique qui ne tient pas debout vis-à-vis du problème qui s'oppose à l'Église dans le problème de ses rapports avec les Juifs et Israël. Vous comprenez ? Deuxième explication qu'ils peuvent donner, « Ah, mais ça mettra en danger les minorités chrétiennes en pays arabe. » Et ça ne tient pas debout non plus. Parce que quand les minorités chrétiennes en pays arabes sont à manger, il y a qu'Israël qui va à leur secours. Et le Vatican le laisse tomber royalement. Donc ça ne tient pas debout.
Qu'est-ce qu'ils peuvent craindre pour l'Israël ?
Non, ça veut dire qu'ils sont obligés de reviser leur théologie. Si les Juifs, c'est vraiment le peuple d'Israël dont parle la Bible, tout leur mythe s'effondre. Parce que leur mythe, ça constitue à substituer une idole au peuple d'Israël. C'est bien clair ? Ça va ?
Quand il a les persécutions, etc., ils reconnaissent quand même les Juifs.
Enfin,
ils les définissaient comment ?
Comme le peuple de l'ancienne alliance déchu et une nouvelle alliance qui le remplace. C'est bien clair. Et par exemple, je me souviens qu'un jour, j'avais eu une de ces conversations. C'était à Orsay, d'ailleurs, il y avait un couvent de franciscains. La veille de Pâques, il m'avait demandé d'aller leur faire un exposé sur la Pâque juive. Et à propos d'une question d'un des franciscains, je leur ai expliqué ceci. Il y a dans les écrits de Paul une image, une parabole qu'ils appellent ça, de la greffe de l'olivier sauvage sur l'olivier franc, comme ça s'appelle en ancien français. Ça veut dire que Israël, le peuple juif, et être présenté comme l'olivier franc, ça veut dire l'olivier cultivé, okay. Et puis voilà, qu'on a greffé sur cet olivier cultivé des branches d'un olivier sauvage pour le faire fructifier. Et l'olivier sauvage représente Rome dans cette image des évangiles. Alors je vais expliquer ceci. Vous dites que vous êtes la greffe sur l'olivier franc, mais la greffe n'a pas pris, tout simplement. Est-ce que c'est clair ? Alors, je l'ai expliqué, en réalité, vous n'êtes pas greffé sur Israël, vous êtes greffé sur des Bibles en papier. Vous comprenez ce jeu ? Il y a eu un silence glacial, parce qu'ils sont intelligents, ils comprennent français. Mais ils ont très bien compris ce que je leur ai dit. Et je leur ai dit, le jour où les prêtres seraient formés dans les écoles rabbiniques, alors là seulement on pourra parler de greffe. Mais ça viendra. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ? Alors, comme j'ai pas voulu leur expliquer pourquoi c'est pas encore le temps, parce qu'il faudrait d'abord qu'on ait des écoles rabbiniques, tout simplement. Voilà quel est le problème. Alors, les événements les prennent de vitesse, et on ne peut pas, dans le monde chrétien, on ne peut plus dire « il faut détruire Israël », après Auschwitz, c'est plus possible. Alors, c'est une impasse théologique totale. Ça vous explique pourquoi il y a tellement de chrétiens anti-israéliens. En particulier, vous connaissez le journal qui s'appelle « Témoignage chrétien », okay ? Un certain Montaron, moi je suis Oukazé, okay ? Vous lisez ces torchons-là ? Non. Bon. Alors, de façon virulente, parce que derrière, bon, au Vatican, il y a un désarroi pur et simple. Et parce que derrière, il y a cette espèce de crainte terrible d'avouer, comme fait le pape imperturbablement, qu'on s'est trompé sur l'essentiel, mais qu'on reste infaillible. Je ne sais pas si vous voyez. Pendant 2000 ans, il se trompe sur l'essentiel, mais il reste infaillible. C'est très, 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 très dur à porter. C'est mieux clair. Voilà quel est le problème. Alors, l'issue, vous la voyez très clairement. Dès qu'un chrétien n'est plus antisémite, je veux dire anti-juif dans le sens précis, son identité chrétienne est en jeu. Mais dans les salles d'études que j'ai à Paris au collège, il y a énormément de curés en civil qui les suivent. Et il y en a un, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il est très malheureux, et qui est venu me dire un jour, oui, c'est vrai, je crois même qu'il l'a dit en public, c'est vrai, il y a des chrétiens qui ne peuvent plus être anti-juifs, mais est-ce qu'ils restent chrétiens? Vous comprenez? Et ça, je vous ferai découvrir le fait que le mythe chrétien est anti-juif par essence. Et par conséquent, c'est très difficile pour un chrétien de ne pas être anti-juif. Ça me rappelle l'enseignement d'Anne Mérabin au Talmud Torah, j'étais enfant, et qui nous disait, si tu vois un goy qui aime les juifs, c'est tellement un miracle que c'est sûrement un descendant de juif. En tout cas, pour les chrétiens, c'est encore accusé à l'extrême. Voilà, c'est clair jusque-là? Bien, vous allez aller manger tranquillement, et je voudrais vous faire une observation. J'aime pas du tout la manière dont vous faites le Birkat Amazon comme si vous étiez au cirque. Et je pense que vous comprenez ce que je vous dis. Okay. Alors, si vous faites le Birkat Amazon ensemble, c'est très bien, mais faites-le proprement et avec un minimum de politesse générale. Tous ces va-et-vient dans les escaliers, entrée et sortie, c'est vraiment une impolitesse dont vous n'avez aucune idée. Et c'est insupportable. Alors, soyez un petit peu civilisés, ok ? C'est clair ce que je dis ? Alors, on se voit de...